ou Canal.
Parce qu'on ne s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Je vous souhaite très simple, malgré ce qui a dit le journal. Nous n'avons pas peur de marcher aux côtés des jeunes punks, anarchistes,
pas mentionné les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple des bidonvilles.
Sécurité, ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Nous gardons sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, sa belle-fille, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Bonjour et bienvenue à cette édition de En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Aujourd'hui, au menu de l'émission, on vous parlera de Côte d'Ivoire, une perspective un petit peu alternative sur l'histoire et la genèse de l'intervention militaire qu'on vient de voir dans les dernières semaines. On vous parlera également de compagnies minières et surtout de stratégie contre les compagnies minières en Zambie avec Denis Touga de l'entraide missionnaire. On vous fera également part de l'anti-hebdo, tous les événements à ne pas manquer cette semaine à la fin de l'émission. Et on va commencer avec la coalition Justice pour Anas que Maud va nous présenter.
Oui, en fait, ce matin, on s'entretient avec Samir Chaine Houssen de la coalition Justice pour Anas. Donc, Anas, c'est ce citoyen, Mohamed Anas Benis, de son nom complet, qui est mort sous l'effet des balles d'un agent du service de la police de Montréal le 1er décembre 2005. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Samir Chassim Hussein de la coalition Justice pour Anas. Samir, bonjour. Alors, juste un instant, un petit problème technique. Samir, premièrement, peux-tu nous rappeler les circonstances du décès de Mohamed Anas Benis en 2005? Alors, on a un petit problème technique en ce moment. On va devoir rappeler Samir. Donnez-nous juste un instant.
Mmh.
c'est pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. On comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple et des bidonvilles.
Alors, on est vraiment désolé pour les désagréments techniques. On va réessayer de reprendre l'entrevue. On est rejoint par téléphone par Samir Chassin-Hussein de la coalition Justice pour Anas. Samir, est-ce que tu nous entends?
Oui.
Oui, et nous également, on t'entend. Alors, on va reprendre du début. On te demandait, Samir, s'il te plaît, de nous réexpliquer les circonstances entourant la mort de Mohamed Anas Bennis.
Certainement. Donc, le matin du 1er décembre 2005, Mohamed Anas Bennis était en train de retourner chez lui, en fait, après ses prières matinales effectuées dans une mosquée de Côte-des-Neiges. Et à ce moment-là, il aurait, selon la version policière, poignardé avec un couteau l'agent Yannick Bernier du service de la ville de police de la ville de Montréal. Et après cet essai de le poignarder, l'agent Bernier a en fait feu deux fois, ainsi tuant Anas Bennis. Puis c'est aussi important en fait de souvenir du contexte à ce moment-là. Le service de police de la ville de Montréal et la Sûreté du Québec étaient en train de faire entreprendre une autre opération policière complètement, intervention policière complètement non liée à ça. Mais c'était décrit comme une intervention contre, en guillemets, le terrorisme. Et donc, ça, c'est aussi important de tenir en compte pour essayer de savoir c'était quoi exactement le contexte pour que Yannick Bernier fait feu deux fois sur Anas.
Et Samir, avant de nous parler des revendications et plus précisément de l'enquête du coroner qui devrait commencer sous peu, peux-tu nous présenter en quelques mots la coalition Justice pour Anas? Qui la forme et quand a-t-elle été formée?
Certainement. Donc, la coalition Justice pour Anas, en fait, a été formée tôt en janvier 2007. C'était après, en fait, que la famille Bennis a attendu pour que l'enquête qui a été faite par le service de police de la ville de Québec dans le décès d'Anas ait lieu et que cette enquête fait ses recommandations, ce qu'elle a fait. Et puis, finalement, la couronne, le procureur de la couronne, en fait, a décidé de pas porter des accusations criminelles contre les policiers. Ça, c'était en novembre 2006. Suite à ça, il y a eu deux vigiles tôt en décembre 2006 pour commémorer le mort d'Anas, en fait. Et à ce moment-là, il y a eu des militants militantes qui ont pu redevenir en fait plus en contact avec la famille Bennis. Donc, dans les semaines qui sont suivies, on a continué de parler, puis finalement, on a commencé à se réunir pour que la coalition se forme. Initialement, principalement les deux groupes impliqués étaient le collectif opposé à la brutalité policière et Personnes illégales Montréal.
Et quelles sont les revendications de la coalition?
Donc depuis ce temps-là, en fait, quand la coalition a été créée, on a toujours les mêmes revendications. Donc la première est l'accès immédiat à tous les rapports, les preuves et les informations concernant la mort de Mohamed Anas Bennis pour la famille et aussi pour le public. Deuxièmement, on voulait toujours une enquête publique et indépendante qui serait complète sur la mort de Mohamed Anas Bennis. Et puis troisièmement, la fin de l'impunité et de la brutalité policière.
Pour ce qui est des deux premières revendications, avez-vous obtenu victoire? C'est-à-dire, la famille a-t-elle accès aux preuves du dossier?
Ben, oui et non. Donc, initialement, c'est clair que c'était pas le cas. Par exemple, le rapport du procureur pour la couronne a refusé refusé la couronne et puis le ministre de sécurité publique, en fait, les deux ont refusé à la famille ce rapport-là pour plusieurs années, en fait. Et la seule moment où la famille a pu finalement voir ces rapports-là, c'était en fait quand la fraternité des policiers et policières de Montréal a déposé une requête pour faire annuler l'enquête du coroner qui a été annoncée en juin 2008. Donc ça, c'était la première fois. Et puis ça a soulevé beaucoup de questions, en fait, aussi, parce que les deux rapports en question, l'enquête du service du Québec, de police de Québec, et le rapport du procureur de la Couronne, ces deux rapports-là étaient toujours censés être confidentiels, et puis c'est pour cette raison que c'était pas donné à, ils n'ont pas été donnés à la famille. Mais d'une coïncidence un peu magique, la fraternité l'a eu. Et on a juste su ça quand la fraternité a déposé sa requête pour annuler l'enquête. Donc, oui et non dans ce sens-là. La deuxième revendication par rapport à l'enquête du coroner, c'est clair que quand l'enquête du coroner a été annoncée le 3 juin 2008 par la coroner en chef, c'était une victoire partielle. C'est-à-dire, c'était clairement de nos revendications qui ont été qu'on a eu, mais on était toujours depuis le début, on voulait assurer pour voir comment ça allait dérouler, et puis pour pouvoir vraiment dire si c'est indépendante et si ça va être complètement public aussi.
On a reçu un communiqué de votre part de la coalition Justice pour Anas, qui dit qui annonce que la coalition demande à être reconnue comme personne intéressée. Ouais. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas très familiers avec le jargon juridique, qu'est-ce que ça signifie?
Bien, principalement, évidemment, il va y avoir des avocats, avocates qui vont représenter ou qui sont censés de représenter les partis principaux impliqués, donc les policiers et puis la famille. Dans ce cas-là, mais l'enquête, la loi qui stipule par rapport aux enquêtes du coroner donne aussi les pouvoirs au coroner de reconnaître des personnes qui seraient reconnues comme des personnes intéressées, c'est-à-dire ça serait des groupes civils, des groupes communautaires qui ont des intérêts par rapport aux enjeux qui seraient soulevés durant l'enquête du coroner. Donc c'est dans cette optique-là que on a décidé d'appliquer, parce qu'étant donné qu'on suit le dossier de très près depuis 2007 et même avant ça pour plusieurs d'entre nous, on s'est dit qu'on est en une bonne position pour pouvoir essayer d'amener quelques faits et puis quelques lacunes, en fait, qu'on a vues en regardant les rapports et puis en se demandant qu'est-ce qui est arrivé pour de vrai ce jour fatidique. Et puis, en regardant aussi, en fait, le travail qui a été fait par la coalition contre la répression et les abus policiers dans l'enquête de Freddy Villanueva, c'était clair pour nous aussi que on pouvait sortir quand même des informations qui sont importantes pour éclaircir qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là.
Puis un rapprochement, par exemple, qu'on peut faire avec le cas de Freddy Villanueva, c'est celui du profilage racial. Mm. Est-ce que vous considérez que dans le cas de Anas, il y a eu profilage racial de la part des agents du service de police de Montréal?
Mais certainement, c'est une question qui est là depuis le début, en fait, pour plusieurs personnes, non seulement nous, mais aussi les personnes du communauté musulmane, arabo-musulmane. C'est clair que ça serait un enjeu super important à discuter, particulièrement parce que le partenaire de Yannick Bernier, c'est-à-dire Jonathan Roy, Roy, qui était avec Yannick Bernier le jour où Anas a été tué. Il était l'autre policier qui était là. Lui, il a été trouvé coupable en 2008, l'été de 2010, pour un événement qui est survenu en 2008 à Côte-des-Neiges, où il a été trouvé coupable pour 5 infractions au code déontologique policière. Pour un cas qui ressemble beaucoup en fait à un cas de profilage racial. C'était une intervention contre un homme noir. Et donc, une fois que ça s'est sorti aussi cet été passé, ça ramène de force en fait la question de profilage racial, c'est-à-dire est-ce que Yannick Bernier et Jonathan Roy ont paniqué parce qu'ils ont vu quelqu'un qui a pas la peau blanche, qui avait une barbe, qui était censé être vêtu en vêtements en guillemets traditionnels musulmans. Donc ça soulève certainement la question, et puis c'est pour ça que ça serait fort important de pouvoir en discuter. D'autant plus, en fait, durant l'enquête Villanueva, il y a eu certains documents qui ont été soumis qui suggèrent que le profilage racial existe bel et bien existe dans la force policière de Montréal.
Samir, on va suivre l'enquête du coroner avec grand intérêt. Est-ce que le public peut appuyer durant l'enquête?
C'est certain. L'appui du public toujours a été une force et puis important pour dans le travail de la coalition. Ce qui est un peu embêtant, à vrai dire, dans cette situation en particulier, c'est que l'enquête du coroner va commencer le 27 avril, mais ça va prendre lieu à Laval. Et donc au palais de justice de Laval, ce qui est quand même frustrant parce que ça risque d'être une enquête publique sans le public, étant donné que la plupart des gens qui ont suivi ce dossier sont à Montréal, y inclut la famille. Et donc ça soulève une question par rapport à l'accessibilité à cette enquête-là. Mais oui, certainement, le public, ça serait bienvenu de venir. Et en fait, le 27 avril, le premier jour de l'enquête, on anticipe probablement à faire un appel pour que les gens viennent assister au cours, au moins pour le premier jour.
Pour se tenir au courant de l'enquête et des activités de la coalition, est-ce que vous avez un site web où on peut...
Oui, certainement. Donc, vous pouvez visiter au www.justicepouranas. Anas, c'est A-N-A-S. Tout ça, c'est un mot. .org. Et aussi, vous pouvez toujours vous envoyer un courriel. Même chose, justicepouranas, @gmail.com. Et puis, ça serait excellent, en fait, si les gens puissent s'impliquer et ou continuer de nous soutenir et de soutenir la famille dans les semaines qui vont suivre.
Et Samir, c'est tout le temps qu'on avait. On te remercie énormément pour ta participation ce matin.
Merci beaucoup, Maude.
Au revoir, bonne journée. Alors, c'était Samir Chahine-Hussein de la coalition Justice pour Anas. Et comme il vous disait, pour en savoir plus, c'est www.justicepouranas.org. On enchaîne avec un peu de musique.
Les crimes policiers ou bateaux policières, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Il faut que ça cesse. Si c'est à moi de prendre le micro, laissez-moi m'exprimer ainsi. Chou, chou, le rythme suit ta route, connais la soirée. Plus tout, le poisson assassin fait partie des gens qu'on écoute. Des coups qu'on redoute, mais si on écoute, les affaires sont sur ma route. Vu qu'on ouvre notre gueule quand l'État français assassine, on ne laisse pas passer le crime. Non, on ne laisse pas passer le crime. Si je laisse passer le crime d'hier, demain, ce sera des larmes sur les joues de ma mère. Mes mains se positionnent sur la feuille, même un jour de deuil. Le terrain est hostile à mon style. Écrivain assassin, j'ai écrit l'État assassine avec un goût amer. L'État policier n'a pas épargné la vie cousienne Abdelkader. Lycée de Jawad Zawiya, paix à leur famille. Et justice pour ces cas, que la lumière brille. Même s'il rappe
fait bastonner sur des radios nationales. La plupart des groupes vendent leur putain d'âme au chétal. On sait pourquoi on est dans le hip-hop depuis tant d'années. Pour ceux qui n'ont pas de bas plus être entendus et respectés. Les crimes policiers ou bavures policières, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Suite d'agonie pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Il faut que ça cesse. La liste est longue, trop longue, pour qu'on nous plombe. Trop de lames coulent sur les tombes d'innocents en grand nombre. Et pire, c'est que ça se passe comme ça dans tout pays. Trop de crimes impunis, torturés, sodomies. Dans les commissariats, notre république, leur dictature. Je m'implique, même si dans le paysage, je représente la rature. Toi, tu seras toujours l'ordure qui s'écrit au-dessus des lois. Un uniforme n'est pas une armure, crois-moi. On ne va pas laisser passer en France, pays des droits de l'homme. Des mises à la comme dans le diamant par des bâtards sous toutes leurs formes. Sous toutes leurs formes.
Killa, killa.
Sous toutes leurs formes.
Les crimes policiers ou bavures policières, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Suite à connu pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Il faut que ça cesse, cesse, cesse.
Pour les familles, c'est dramatique, tragique. Pour notre république, antidémocratique, quand la justice mène au trafic. Hit sur hit, je décapite l'élite. Procureur et magistrat se mêlent dans les coups de l'État. Et dans l'affaire Lafarge, personne n'oublie Malika. Vous voulez qu'on respecte votre état policier, alors que le policier Hiblot soit jugé pour ce qu'il est. Qu'on arrête de nous tirer dessus comme du gibier. Arrêtez vos coups de pression pendant vos contrôles d'identité. Arrêtez de nous contrôler quand on n'a rien à se reprocher. Si vous vous emmerdez quand vous patrouillez, changez de métier.
Les crimes policiers ou pavillon policier. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Suite à connu pour 80% d'affaires. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Il faut que ça cesse,
c'était Assassin avec la chanson État policier pour donner suite à l'entrevue qu'on a eue avec Samir de la coalition Justice pour Anas. C'est maintenant Blandine qui nous présente l'anti-hebdo de la semaine.
Alors, cette semaine, pour toutes les personnes qui ont jeté leur télévision, beaucoup de choses à faire. Alors, si vous traînez dans le coin du centre-ville, là, maintenant, tout de suite, le FRAPRU, Front d'Action Populaire en Réaménagement Urbain, vous invite à une action qui a donc lieu ce matin à 9h45 à la sortie du métro Guy Concordia. Dans le cadre de la campagne électorale, le FRAPRU se rendra devant un centre de recrutement de l'armée pour dénoncer le fait que le budget du ministère de la Défense nationale soit 11 fois plus élevé que celui consacré au logement et qu'en plus le gouvernement Harper s'apprête à dépenser 30 milliards pour l'achat de 65 avions F-35 alors qu'il a réduit à zéro ses investissements dans la construction de nouveaux logements sociaux depuis le 1er avril dernier. C'est donc une invitation, ça fait partie de toutes les campagnes du FRAPRU pour le logement social. Vous pouvez en savoir plus frapru.qc.ca.
Je trouve que c'est un très beau rapprochement qui est fait, surtout avec les avions, quand on sait que ceux-ci sont en train de bombarder la Libye.
Tout à fait. Donc, demain soir, passez à l'action contre l'extraction organisée par Climate Justice Montréal. Ça va avoir lieu entre midi et 3h au McGill, au coin de McGill College et Sherbrooke. Alors, partout autour du monde, des communautés sont menacées par des industries d'extraction qui empoisonnent, tuent, etc. Donc c'est tout un appel à l'occasion du premier anniversaire de la marée noire de BP. Justice climatique Montréal se joindra à d'autres à travers le monde pour une journée d'action directe contre l'extraction. Alors entre midi et 3h demain au coin des rues McGill College et Sherbrooke. Demain également, mais en soirée, opération populaire d'aménagement, le comité Baille et les membres du Conseil pour le développement local et communautaire d'Hochelaga-Maisonneuve vous invitent cordialement à la fête de lancement de opération populaire d'aménagement Hochelaga-Maisonneuve. Donc ça va avoir lieu au Resto Chaud 3881 rue Sainte-Catherine-Est. Et donc, c'est une initiative pour le droit au logement par le comité Baille, qui est le comité logement de Hochelaga-Maisonneuve, que vous pouvez retrouver sur Internet, logement-hochelaga-maisonneuve.org, où vous pouvez évidemment utiliser un moteur de recherche alternatif pour le trouver. Également vendredi, dans le cadre des rendez-vous de la maison Normand Béthune, les défenseurs de la démocratie, les défenseurs de gauche de la démocratie bourgeoise, nous invitons. La campagne de boycott des élections menée par les communistes révolutionnaires rencontre un écho favorable en milieu ouvrier. Alors, si vous voulez en entendre parler, surtout ne manquez pas ça vendredi. Outre celles qui proviennent des partis bourgeois eux-mêmes, les réticences les plus fortes que l'on rencontre viennent de cette gauche qui espère encore. Alors, si vous avez envie d'en discuter, évidemment, c'est dans le cadre de la campagne fédérale pour une position de boycott des élections. Ça va être vendredi 22 avril à 19h au 1918 rue Frontenac à Montréal. Plus d'informations, maisonnormandbéthune.ca. Et on va prendre une petite pause musicale.
Camouflage, Babylon veut étouffer les massacres. Il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Sabotage, les médias français étouffent les massacres. Il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Tous les coups d'État financés par l'Occident font énormément de morts pour le pouvoir et l'argent. Les présidents mal intentionnés commettent des crimes imposés par Babylone, système et leur combine. Pour avoir les mains mises sur les richesses, ils oppriment des familles entières assassinées, ça me déprime. Si t'es témoin et que tu dénonces, ils te suppriment. Beaucoup trop de nos frères sont devenus des victimes des camouflages. Babylone veut étouffer les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Sabotage, les médias français étouffent les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. J'ai dénoncé, ils ont voulu me liquider dans la rue, attaqué par des militaires armés. De nos jours, les droits de l'homme ne sont même pas appliqués. Les hommes des milices aiment la terreur dans tous les quartiers. Quand ils ont trop vu, ils n'hésitent pas à tirer. Les civils innocents se font martyriser et les coupables de ces crimes ne sont même pas jugés. Les politiciens agissent en toute impunité. Camouflage, Babylone veut étouffer les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Sabotage, les médias français étouffent les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Ils font des victimes, on les compte même par milliers. Et parfois au Congo, beaucoup de femmes sont violées. Il n'y a pas d'assistance pour ces personnes en danger. On retrouve des âmes enterrées à peine dissimulées. Après cette guerre, ils n'ont toujours rien ramassé. La mafia franco-africaine doit être désamorcée. Ils installent des criminels qui exterminent sans pitié. À la tête de nos pays, pour toujours tout contrôler. Camouflage. Babylone veut étouffer les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Sabotage, les médias français étouffent les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Sans respect, ils envoient du sang contaminé pour détruire des populations déjà maltraitées. Levons-nous, mes frères, ne nous laissons pas aller. Sauvons les vies de ces innocents terrorisés par ces assassins qui sont censés nous représenter. Il faut condamner les actes de ces tyrans acharnés qui agissent dans l'ombre et ne sont jamais démasqués. Et bien sûr, les médias français ne veulent pas en parler. Tiens, camouflage, Babylone veut étouffer les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Sabotage, les médias français étouffent les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Les guerres, les crimes, les mines, les ruines, voilà ce que combine Babylone en Afrique. Trafic, magouille, terrorisme, génocide, voilà les pratiques de Babylone en Afrique. Les guerres, les crimes, les mines, les ruines, voilà ce que combine Babylone en Afrique. Trafic, magouille, terrorisme, génocide, voilà les pratiques de Babylone en Afrique.
sur les ondes Radio Centre-Ville 102.3 FM. Vous êtes à l'écoute de En bas à gauche et vous écoutiez la chanson de Jawice sur Désamorcer. Et on va enchaîner, on va avoir en entrevue avec nous Denis Touga de l'Entraide missionnaire. L'Entraide missionnaire qui fait partie de 5 ONG qui déposent une plainte contre Glencore International et First Quantum Minerals, donc des compagnies minières, si vous ne l'aviez pas compris en entendant leur nom, pour violation des principes directeurs de l'ECDE. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Alors merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être un petit mot rapide pour présenter l'Entraide missionnaire, qui est une ONG tout de même bien connue à Montréal.
Oui, ça existe depuis 1958. Et puis, bon, depuis les tout débuts, les sociétaires, que sont les communautés missionnaires, ont voulu faire de l'Entraide un lieu de réflexion, de formation et maintenant de sensibilisation et de plaidoyer.
Donc, ce communiqué qui a été envoyé la semaine passée, donc c'est une action internationale pour porter plainte contre une compagnie pour évasion fiscale en Zambie. Alors, peut-être nous donner un petit peu le contexte de ce qui se passe en Zambie avec cette compagnie minière et de cette plainte qui est faite contre la compagnie.
Oui, certainement. Disons que cette initiative est à insérer dans un ensemble au niveau international de groupes comme les nôtres, comme ceux qui ont porté plainte, pour faire en sorte que les entreprises étrangères dans des pays en développement comme la Zambie puissent agir conformément aux lois. C'est aussi bête que ça, mais effectivement, il arrive très régulièrement que ce n'est pas le cas. Pour ce qui regarde précisément ce cas-là, First Quantum et Glencore possèdent une entreprise sur place, Mopani Copper Mines, qui est une des plus importantes et qui est là depuis quand même un certain temps. Et puis, ce qui s'est produit, c'est que devant le volume normalement qu'une compagnie comme cela devrait produire, donc des revenus, le gouvernement s'est aperçu qu'il ne recevait pratiquement rien en termes de redevances, en termes d'impôts. Le gouvernement a demandé l'aide du gouvernement norvégien qui leur a fourni les services de deux entreprises d'audit international pour arriver à étudier la situation fiscale de cette entreprise en 2009. Ça a pris un certain temps, l'entreprise n'était pas très collaboratrice, mais les résultats sont assez, disons-le, scandaleux. Le rapport d'audit indique que l'entreprise fait vraiment de la manipulation des chiffres fiscaux et de la manipulation de leur rapport. Très brièvement, on élève les coûts de production, donc pour dire que ça coûte vraiment beaucoup plus cher qu'en réalité à extraire le minerai, et on réduit le taux de bénéfice. On dit donc qu'on vend beaucoup moins de produits que ce que l'on en retire. On s'est aperçu que cette compagnie vend son minerai à sa filiale, à la maison mère plutôt. Mais quand elle le vend, elle réduit les prix qui ne sont pas les prix du marché. Ceci fait en sorte que les chiffres de cette entreprise, à chaque année, sont réduits de 300 à 400 000 par année. Quand on sait déjà que cette entreprise peut se prévaloir de conditions vraiment avantageuses. Par exemple, l'impôt pour les redevances n'est que de 0,06%. Qu'ils ont des exemptions quand la compagnie veut importer des produits pour aider à l'exploitation. Ils ne paient pas d'impôt aux douanes. Peuvent rapatrier les bénéfices et ont un taux, ce que l'on appelle de stabilité de 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, cette entreprise va être soustraite aux lois qui vont être passées dans le domaine. C'est tout à fait scandaleux. C'est pourquoi, bon, pour un pays, la Zambie, qui est quand même un pays pauvre, hein, qui est classé dans l'échelle de pauvreté parmi les plus pauvres, et deuxièmement, qui, pour attirer les investissements étrangers, à donner des conditions mais vraiment très avantageuses à l'ensemble des entreprises. Voilà, c'est ce qui nous a poussé à l'Entraide missionnaire, mais aussi dans la déclaration de Berne et le groupe Sherpa et le groupe Center for Trade Policy and Development de Zambie, et Mining Watch au Canada a porté plainte au point de contact national des principes directeurs de l'OCDE. Voilà, en résumé, ce qui s'est passé.
Puis le cas de la Zambie est quand même intéressant, puisqu'en fait, c'est un cas comme un cas d'école, on pourrait dire avec un peu de cynisme, puisque c'était des entreprises d'extraction de ressources naturelles qui étaient nationalisées avant les plans d'ajustement structurel dans les années 90.
Exactement. Quand le prix des matières premières a chuté, la plupart des pays africains ou en voie de développement qui basaient leur économie sur l'exploitation minière ont vu leurs revenus chuter de manière dramatique et se sont endettés pour pouvoir maintenir leurs services. Et c'est là que les programmes d'ajustement structurel et tout ce qui s'en est suivi depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Et dans ces programmes d'ajustement structurel, ce que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international a exigé, c'est la privatisation de l'ensemble du secteur. Donc, à partir des années 90, toutes les entreprises d'État ont été privatisées. C'est le cas dans l'ensemble des pays en voie de développement, particulièrement en Afrique. Avec des résultats, je vous donne l'exemple pour la Zambie. Le secteur minier, les entreprises minières ne contribuent maintenant que 4% du budget total des entreprises, quand auparavant, ce pourcentage frôlait les 40%. Il y a une diminution assez extravagante, là.
Et donc, en ce moment, concrètement, votre démarche, c'est une plainte au point de contact de l'OCDE ici au Canada et donc ailleurs, j'imagine, de d'autres groupes. Concrètement, c'est quoi les possibilités, les espoirs d'impact qu'ont ce type de plainte-là?
Vous savez, quand une chose comme ça se produit, bon, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que la Zambie n'exige pas d'être remboursée? La situation est telle en Zambie que ce que l'on appelle leur ministère du Revenu et l'autorité financière n'a pas la capacité, ni législative, ni humaine, d'intenter des poursuites. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que les entreprises font, des menaces en disant « Si vraiment vous nous poussez à bout, nous allons quitter. Nous allons aller amener nos investissements à l'étranger. » On connaît bien cette musique. Et la troisième raison, c'est qu'il y a au sein du gouvernement, et ça c'est assez connu, des gens qui ont participé aux négociations quand il y a eu la signature de ces contrats. C'est pourquoi on se tourne vers l'extérieur. Donc, au niveau international, il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'on peut porter ce type de plainte-là. Au Canada, et ailleurs dans le monde, il n'y a que le point de contact national de l'OCDE. Dans les années 70, tous les pays de l'OCDE ont dit qu'il faut mettre certaines des normes minimales pour le comportement des entreprises, toutes les entreprises dans les pays en développement. C'est ce que l'on a appelé les principes directeurs. Tous ces principes sont volontaires, n'appliquent aucune mesure contraignante. Mais c'est ce qui existe. Au Canada, dernièrement, l'année passée, le gouvernement, en réponse à un rapport d'une commission parlementaire canadienne qui demandait la constitution, la création d'un bureau d'ombudsman avec la possibilité d'enquêter et la possibilité d'imposer certaines mesures contraignantes, on a formé un bureau de conseillers en responsabilité sociale des entreprises qui, à mon avis, est tout à fait inoffensif. On a donc décidé de présenter cette plainte au point de contact national de l'OCDE, ici. Ce n'est pas la première fois. Ce point de contact, à la différence du bureau, bon, il y a beaucoup de similitudes. C'est volontaire. Hein? Si la compagnie ne veut pas, elle ne dit « Non, non, moi, je ne me présente pas là ». Cependant, le point de contact peut faire une certaine capacité d'enquêter les faits. Là, c'est assez facile puisqu'on a le rapport d'audit financier. Mais en même temps, à la toute fin, ce point de contact national va déterminer s'il y a eu violation ou non. Ce qui est nouveau, le bureau du conseiller, ici au Canada, ne fait même pas ça. On pourra dire que c'est minime, vous avez raison, c'est tout à fait minime. Mais ce n'est pas insignifiant. Uniquement être nommé par cette institution officielle officielle internationale comme ayant été en violation des principes directeurs de l'OCDE a des répercussions en bourse, a des répercussions au niveau de la réputation. Mais je le répète, c'est minime, mais c'est tout ce que nous avons. L'an passé, il y a eu cette grande bataille au niveau du Canada pour faire adopter la loi C-300 qui aurait permis à des entreprises, à des gens comme nous ou comme d'autres, de présenter au ministère une plainte de ce type et le ministère aurait eu la possibilité d'enquêter, de faire enquête et, si une compagnie est jugée fautive, de lui interdire l'accès aux services du gouvernement que sont les fonds d'exportation de développement Canada ou les services diplomatiques dans les pays en voie de développement, entre autres. Alors, voilà où l'on en est.
Est-ce qu'il serait possible d'imaginer des plaintes au niveau judiciaire contre les compagnies canadiennes pour des crimes, qu'ils soient d'ordre financier ou même violation de droits humains flagrantes, comme on en voit beaucoup, d'imaginer un système dans lequel on pourrait poser des plaintes ici, en ce moment, avec l'état du droit actuel au Canada?
Oui, et c'est très limité. C'est limité au cas de violation importante des droits de la personne. Présentement, il y a plusieurs causes j'en connais deux qui sont devant les tribunaux canadiens. Plusieurs ont tenté d'amener des causes, mais ont été déboutés parce que les juges ont dit que le Canada n'est pas le bon lieu pour faire cela, retourner dans vos pays. Les deux causes, c'est entre autres l'assassinat d'un militant des droits de la personne ou des droits des communautés qui étaient touchées par des activités des entreprises minières canadiennes au Mexique. Et l'autre cause, c'est la compagnie Anvil Mining, qui est maintenant devant les tribunaux ici à Montréal, accusée d'avoir participé, d'être complice d'actes de guerre, de crimes de guerre au Congo en 2004. C'est très rare. Bon, les deux plaintes, est-ce qu'elles vont suivre leur cours? Est-ce qu'elles vont aboutir? Rien n'est sûr là-dessus. Sauf que c'est tout ce qui existe maintenant et on va le tenter. Pour une cause comme celle-ci de manœuvre, de manipulation fiscale, il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. L'autre cas qui peut être amené ici, c'est par exemple si des entreprises tentent de corrompre des fonctionnaires. Et ça, il y a une mesure ici, une réglementation internationale, et le Canada a traîné les pieds, mais maintenant a adopté ces mesures depuis un an ou deux, où, quand on a les preuves, on peut porter plainte ici pour ce type de manœuvre. Voilà. Mais c'est très restreint, on est encore au niveau international et au niveau légal dans un domaine qui ressemble à ce qui se passait au siècle dernier. Pas le 20e siècle, mais le 19e siècle.
Et donc, si on veut avoir plus d'informations sur le suivi de ce dossier-là, mais aussi d'autres dossiers de plaintes, est-ce que vous auriez un site web, des médias alternatifs ou des événements à nous conseiller?
Oui, je vous suggère donc de consulter le site de l'entraide missionnaire, qui est facile à consulter, et celui de Mine Alert Canada, Mining Watch Canada, qui est l'organisation qui suit de plus près l'ensemble de ces procédures et de ces activités et de ces initiatives.
Merci beaucoup, Denis Tougaud, d'avoir été avec nous.
Mais je vous en prie.
Alors, nous étions avec Denis Tougaud de l'entraide missionnaire qui nous parlait donc d'une plainte déposée contre une compagnie aux intérêts canadiens en Zambie. Mais c'est aussi une situation de tentative de s'en prendre aux compagnies qui font des dégâts partout dans le monde, en fait, pas seulement en Afrique, de différentes façons. Fait que c'est une des stratégies qui nous était présentée aujourd'hui par Denis Tougaud. Donc, on va prendre une petite pause musicale, puis au retour, on va parler de la Côte d'Ivoire. Alors, on va rester dans la thématique, puisque on va parler de la militarisation et de l'intervention militaire, en fait, en Côte d'Ivoire de la part des anciens ou des des encore actuels colonisateurs, donc qui nous fera le lien avec ses intérêts économiques et ses intérêts militaires qui se retrouvent curieusement aux mêmes endroits.
Arrimba la bulegaro, desamargo a l'upicame, la vincin de l'incontraro, seguisez lo moviment, per favira di servelo, gli ami lobi hai de danzar, perché gli hommes son fraile, apprendien tutti di pa, perché la terre sveduno, non jamais il pétaral.
De partout sur la planète, il y a des hommes qui perdent la tête. Pour un qui rêve de conquête, il y en a cent qui n'ont rien dans l'assiette. Quand au nord on fait la fête, au sud on meurt pour réduire la dette. Pour un qui prend des pépettes, il y en a cent qui vivent comme des bêtes. On vient nous régler tout le monde, rien ne pourra nous arrêter. Tu le sais, la terre est ronde, et c'est pour ça qu'on n'a pas les pieds carrés.
Souvent tu fais mes demandes, si on t'y pas des couillonnas. Mais les sacs qu'ils arrêtent, tout dans ça, ils nous font gaz. Trop barré, mais la danse, on m'y l'aura, sous l'espéra. Mais qu'ils ont mis son frayer, apprenez tout y pas. Mais que la terre est sveduna, une jamais il peut parler.
Les mauvais génies s'entêtent, de partout la connerie nous guette. Pour une opéa pas nette, il y en a cinq qui vont en pré-retraite. Pour vendre leurs mitraillettes, ils sont toujours prêts à déclencher des tempêtes. Pour un qui tient la baguette, il y en a cinq qui ramassent les miettes. On vient bouleguer tout le monde, rien ne pourra nous arrêter. Tu le sais, la terre est ronde, et c'est pour ça qu'on n'a pas les pieds carrés.
La musique est planétaire, la politique est en un arrière pays barretti, dire nuestri sentiments. Un arrière pays la planète, et si danse, que danse à pays que les hommes sont frayés, apprenez tout y pas, pays que la terre est sveduna, jamais il te cagare.
Alors, vous venez d'entendre Massilia Sound System avec la chanson Mazurka Planetaria. Vous êtes à l'écoute de En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Et on poursuit avec une chronique qui porte sur la Côte d'Ivoire, Blandine?
Oui, exactement. J'aurais voulu vous l'introduire un petit peu plus largement. Malheureusement, on n'a plus vraiment de temps. Je vais essayer de faire ça vite. C'est une chronique qui a été enregistrée avec David Maugé de l'association Survie en France. C'est sur, on peut retrouver la version complète sur sonenlutte.net, une plateforme internet de différentes radios communautaires en France. C'est une entrevue qui a eu lieu au mois de mars, mais qui donne le contexte, en fait, pour aller voir au-delà de la crise post-électorale qu'on nous a montrée, donc de l'intervention militaire de la France et de l'ONU qui ont amené à la résolution soi-disant de cette crise-là, donc en enlevant par les armes le président sortant Gbagbo et le remplaçant par Ouattara, donc qui serait selon l'ONU le nouveau président qui aurait été reconnu. Mais c'est une situation qui est un petit peu plus compliquée. Alors je vais laisser David Maugé de l'association Survie vous en parler un peu plus et surtout vous inviter à aller chercher des nouvelles alternatives à celles de nos grands journaux pour en savoir un peu plus.
David Maugé, tu es le référent Côte d'Ivoire pour l'association Survie. Et c'est à ce titre que je te téléphone pour comprendre un peu mieux ce que c'est cette force licorne qui se trouve en Côte d'Ivoire et qui est constituée de militaires français. Donc qu'est-ce que c'est licorne ?
Oui, alors en fait la force licorne est depuis le début de la crise militaire qui a débuté en 2002 en Côte d'Ivoire. Donc il y a lors du tout début de la rébellion qui était d'abord une tentative de renversement de Gbagbo et qui s'est transformée en une rébellion qui occupait le nord de la Côte d'Ivoire. Assez rapidement, les troupes françaises sont intervenues, d'abord pour évacuer des expatriés qui étaient présents dans ces zones rebelles. Et assez rapidement, en fait, ils ont imposé une ligne de cessez-le-feu entre les deux belligérants. Voilà, donc c'était au départ une opération purement française. Il faut savoir que depuis 1960, la France avait une base militaire à Abidjan. Sur place et la force licorne en fait depuis 2002 se trouve donc en Côte d'Ivoire avec des effectifs qui ont beaucoup évolué et notamment sous Chirac on est monté aux alentours de 5000 hommes et là on était aux alentours de 1000 hommes depuis que Sarkozy était à l'Élysée et il y a eu à nouveau une hausse de jusqu'à 1600 hommes tout récemment dans le cadre de la préparation de l'opération militaire qu'on a pu voir ces derniers jours.
Alors pour revenir un tout petit peu en arrière, en 2002, avec quelle légitimité en droit international la France a envoyé des militaires en Côte d'Ivoire ?
Alors la légitimité là, c'est la même que celle qui permet d'avoir une base militaire à Abidjan, c'est-à-dire que lors de l'indépendance, en 1961, il y a eu la signature d'accords militaires entre la Côte d'Ivoire et la France, quelques autres pays aussi, qui en fait établissaient une sorte de réciprocité en cas d'agression, de la solidarité entre les pays. D'ailleurs, donc cet accord militaire qui est disponible sur Internet, en fait, qui est tout à fait public, a quand même une annexe assez bizarre et qui montre bien quels sont les rapports de la France et de ses anciennes colonies. Cette annexe explique que les matières premières stratégiques sont prioritairement destinées à la France. Maintenant, il y a un deuxième accord militaire qui lui est secret, qui traite du maintien de l'ordre et qui a été signé en 1962 et qui en fait assure la pérennité du régime ivoirien, y compris en cas de troubles intérieurs, c'est-à-dire que s'il y a une tentative de déstabilisation au niveau de l'intérieur, donc par, disons, des populations civiles qui, imaginons-le, feraient une révolution, le président peut faire appel à l'armée française pour être maintenu. Donc ça, c'est l'une des pièces essentielles, en fait, de ce que nous appelons à survie la France-Afrique, c'est-à-dire c'est l'existence de bases militaires permanentes dans un certain nombre de pays africains, avec la possibilité pour l'armée française très facilement d'intervenir pour maintenir des gens qui sont, qui ont une légitimité très faible par rapport aux populations.
La force licorne et les armées de l'ONU, donc l'ONUCI, appuyaient l'offensive militaire de Ouattara. Quel est le mandat de ces militaires pour se mettre à tirer sur le palais présidentiel ?
Il y en a un qui est implicite, qui est un mandat purement français, c'est-à-dire que jusqu'à ce il y a quelques jours, jusqu'à la semaine dernière précisément, le discours du ministère de la Défense était de dire que les militaires français de la force Licorne étaient présents à Abidjan uniquement pour protéger les expatriés. Voilà, donc maintenant le deuxième volet, c'est le fait que la force Licorne est considérée comme une force de soutien à l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui s'appelle l'ONUCI. Et cette, en tant que force de soutien, donc ils ont avec l'ONUCI un mandat d'une part de protection des civils, un mandat qui consiste à observer le cessez-le-feu, et tout récemment on a inclus dans le mandat le fait d'empêcher que des armes lourdes soient utilisées à Abidjan. Alors il faut voir qu'au niveau des deux premiers points de ce mandat, c'est-à-dire la protection des populations civiles et l'observation du cessez-le-feu, on peut dire que c'est une faillite complète. C'est une faillite complète déjà en 2004, où il y avait eu une offensive, cette fois-ci de la part du camp Gbagbo, et où l'ONU, ni l'ONU ni la France n'avaient réagi pour signaler la rupture du cessez-le-feu. Et d'autre part, depuis 2002, la France et l'ONU s'y étaient chargées de surveiller, donc d'assurer la protection des civils, tout spécialement dans une zone qui s'appelait la zone de confiance. Et on sait notamment par un rapport de MSF Belgique que ça a été une faillite complète et que l'impunité la plus complète a régné dans ces zones.
Que ça soit pour la France ou pour les États-Unis, c'est clair que c'est Ouattara qui a gagné les élections présidentielles, a survécu. Est-ce que vous trouvez que c'est aussi clair que ça?
Alors pour nous, non, c'est pas clair du tout. Ce qui nous paraît très clair, c'est que les forces internationales n'ont rien fait pour que les conditions qui avaient été prévues pour ces élections soient remplies. Notamment, l'élection devait se faire dans le cadre d'un processus qui est inscrit dans les accords de Ouaga, qui sont intervenus à partir de 2007. Et dans ces accords de Ouagadougou, l'un des préalables indispensables, c'était le désarmement à la fois des troupes rebelles, aujourd'hui alliées à Alassane Ouattara, et des milices qui étaient du côté Gbagbo. Et ce désarmement n'a pas eu lieu. Et ça a une incidence directe évidemment sur la situation aujourd'hui et sur les conditions dans lesquelles se sont faites les élections. Et là encore, il y a une faillite au niveau de l'ONU, puisque la certification qui a été donnée par l'ONU pour l'élection de Ouattara souffre d'une énorme lacune, puisque normalement la certification devait concerner l'ensemble du processus qui devait mener aux élections, y compris le désarmement. Et à aucun moment, l'ONU n'a tapé du poing sur la table en disant que on s'acheminait vers une situation extrêmement dangereuse parce que le désarmement n'était pas fait.
Alors, c'est tout le temps qu'on avait malheureusement pour En bas à gauche sur les ondes Radio Centre-Ville. Vous pouvez retrouver toutes nos chroniques et nous contacter en visitant notre blog enbasagauche.wordpress.com. Et sinon, on vous retrouve la semaine prochaine, mardi à 9h du matin sur les ondes Radio Centre-Ville 102.3 FM. Si vous avez des propositions de chroniques, souhaitez faire des entrevues ou donner votre point de vue sur l'actualité, nous vous invitons à nous écrire en bas à gauche at riseup.net, mais comme je vous disais, vous allez trouver toutes nos coordonnées sur le site ainsi que les entrevues réalisées. Sur ce, bonne semaine.
Arrimba la bulegaro, desamarga lo picame, la vigin de l'incontraro, seguise lo movimento, per favore di servelo, gli ami lobby hai di danzare, perché gli sommi sono fraile, apprendendo tutti di pa, perché la tele sveduno, in giamma il peccarale.
De partout sur la planète, il y a des hommes qui perdent la tête. Pour eux qui rêvent de conquête, il y en a cent qui n'ont rien dans l'assiette. Quand au nord on fait la fête, au sud on meurt pour réduire la dette.
pourrais tu prendre des pépettes. Il y en a cinq qui vivent comme des bêtes. On vient nous aiguiller tout le monde. Rien ne pourra nous arrêter. Tu le sais, la terre est ronde. Et c'est pour ça qu'on n'a pas les pieds carrés.
Souvent tu fais mille demandes, si un petit pas des couillounas. Les sacs en cuisine, les tougas, des moufangas. Trop barré, mais la danse en mille en gras ou d'espéda. Quelques hommes sont frayés, à peine tout y pas. Quelques lapérés védounes, une jamaïque peut pas là.
Les mauvais génies s'entêtent, de partout la connerie nous guette. Pour innover un panette, il y en a cinq qui vont en pré-retraite. Pour vendre leurs mitraillettes, ils sont toujours prêts à déclencher des tempêtes. Pour être qui tient la baguette, il y en a cinq qui ramassent les miettes. On vient bouler tout le monde, rien ne pourra nous arrêter.